Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Document RTL.
Et à 8h19, nous allons donc remonter à bord de l'Airbus A330 du Président de la République avec vous, William Galibert. Bonjour.
Bonjour.
C'est à votre micro que le Président de la République a décidé d'accorder une interview pour les auditeurs d'RTL. C'était ce week-end, au retour de son voyage à Mayotte et à La Réunion. Nous vous proposons depuis ce matin de découvrir les engagements à venir du chef de l'État, mais aussi le bilan qu'il fait lui-même de sa première moitié de mandat. Les retraites, l'hôpital, tous les débats autour de l'islam de France, de la radicalisation et du terrorisme. On embarque avec vous, William.
Oui, après 4 jours brûlants entre bains de foule, les débats sur le chômage ou l'immigration, on souffle un peu. Les conseillers du président s'endorment sur leur plateau repas. Les ministres à bord attendent le chef de l'État pour dîner. Et ils vont attendre parce qu'Emmanuel Macron nous reçoit dans son bureau à l'avant de l'appareil. Il a tombé la veste pour un sweat à capuche un peu plus adapté aux 11 heures de vol. Et le moment est propice aux confidences, à une forme même d'introspection. Depuis la rentrée, les communicants de l'Élysée nous répètent que c'est l'acte 2 du quinquennat, que les choses ont changé. Alors je lui ai demandé tout simplement si lui, Emmanuel Macron, avait changé.
J'ai peur que énormément de gens aient dit, si on reprenait notre histoire, quand on avait des difficultés, j'ai changé ou nous avons changé. On n'est jamais tout à fait le même, parce que la vie vous forge, vous bouscule et vous apprend. Enfin, on n'est jamais tout à fait un autre non plus. Et je ne peux pas vous dire que je suis un autre homme. J'ai appris. J'ai appris que, à vouloir faire bouger les choses avec impatience, énergie, parce que je crois que c'est ce qui me caractérise, j'avais parfois blessé des gens ou donné le sentiment que je voulais changer le pays contre les Français eux-mêmes. C'est l'inverse de ce que je veux faire. Et donc, j'ai compris, pris sur moi, et ce que je veux faire maintenant, et ce qui, à mes yeux, est important dans le moment qui s'ouvre, c'est absolument pas d'arrêter les transformations, la vision que je porte. Il y aura toujours des gens qui sont contre, c'est normal. Il y aura toujours des gens qui refusent, qui ne veulent pas entendre, qui s'opposeront. Mais de la faire beaucoup plus partager, d'expliquer à nos concitoyens pourquoi on en a besoin, quelle place ils ont à jouer dans cette transformation, et en prenant le temps, en les écoutant davantage et en expliquant davantage, d'être aussi plus respectueux de la part qu'ils ont dans ce changement. Et ça passe par plus de présence sur le terrain, plus d'écoute, plus d'humanité, de respect. Et ça a parfois été utilisé, c'est normal, par des raccourcis de manière comique ou par les oppositions de manière politique. Tant pis pour moi. C'est ma faute, hein. J'ai appris, ce que je pourrais dire. J'ai beaucoup appris. Et je n'en tire pas la conclusion qu'il faudrait arrêter de bouger et maintenant, en quelque sorte, courir après les gens pour colmater les plaies. Non. Je garde le même niveau d'ambition, je dirais même qu'il est redoublé. Et que la situation du pays nous implique davantage et nous impose d'avoir sur les sujets, par exemple, régaliens, d'immigration, de laïcité, encore plus de force et d'inspiration que je n'en portais moi-même au début, parce qu'il en va de la cohésion de la nation, mais qu'il faut le faire en prenant le temps, en choisissant son rythme et en étant respectueux et à l'écoute.
À l'écoute, ce président l'est-il vraiment, William ?
En tout cas, avec la réforme des retraites, il a une formidable occasion de le prouver, montrer qu'il a retenu les leçons de la crise des Gilets jaunes, qu'il peut infléchir les critiques récurrentes sur une forme de brutalité ou d'arrogance dans son exercice du pouvoir. Alors les contours de cette réforme des retraites restent flous, notamment sa date réelle d'application. Ce qui est clair, en revanche, c'est que la grogne s'organise. Une grève débutera le 5 décembre, notamment à la RATP. Ce sera un défi majeur sur le fond et la forme. Et le chef de l'État nous répète qu'il est prêt à le relever.
La réforme des retraites est toujours quelque chose qui angoisse. Et c'est normal. Parce que c'est un moment de la vie où on est par définition plus vulnérable parce qu'on va toucher de l'argent venant du travail des autres. Et donc chacun veut être sûr qu'il aura la retraite qu'il a prévue ou à laquelle il a droit. Et toutes les réformes conduisent à ces craintes, ces manifestations, ces bouleversements. Donc il y aura des manifestations. Parce qu'il y a en particulier... Et c'est pas la faute ni la responsabilité, moi je ne stigmatise personne, certains de nos compatriotes qui sont dans des régimes où il y a beaucoup d'avantages qui étaient construits avec le temps, et ces avantages ils ont leur explication, ce qu'on appelle les fameux régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, on peut pas dire ça va durer toute éternité, et je peux pas vous dire de manière raisonnable, je vais demain dire la SNCF va embaucher des cheminots ou la RATP va embaucher des chauffeurs de bus qui auront le même régime qu'il y a 40 ans ou même un régime plus favorable que ceux qui étaient embauchés il y a 40 ans. Ça n'aurait pas beaucoup de sens.
La nécessité de cette réforme, elle vaut de prendre le risque d'un pays qui se bloque, comme on l'a vu en 95, pendant des semaines.
Oui, parce qu'elle est très différente. C'est une réforme qui est la condition même de, pour moi, de l'esprit de justice et de la confiance dans notre pays et de la pérennité de notre système de retraite. Moi, je comprends tout à fait quelqu'un à EDF, à la RATP ou à la SNCF, qui a 48 ou 50 ans, et qui protestent. Et donc il faut qu'on trouve une solution intelligente. Il est rentré avec un pacte avec la nation. On lui a dit, vous allez travailler dans cette entreprise, voilà vos droits. Sans doute, il ne faut pas tout bousculer pour lui. Et donc, quand je dis la transition, il faut le faire. Nos policiers, nos gendarmes, évidemment nos militaires, nos infirmières, elles sont rentrées avec un pacte là aussi. Est-ce qu'on peut tout bousculer du jour au lendemain? Non. C'est pour ça que je dis, il faut donner du temps à la transition. Mais ce que je veux aussi regarder, c'est, est-ce que le gendarme que j'embauche demain, je ne peux pas dire, il rentre dans le nouveau système, lui? Et donc, on est en train, c'est exactement ce que je vous disais, d'inventer quelque chose de plus juste et de plus efficace. Ce qu'il faut gérer, c'est l'angoisse des gens qui veulent comprendre où ils vont, sachant qu'ils ont parfois 15 ans, 20 ans, 25 ans de carrière.
On pourrait toujours porter ce message quand les gens n'auront pas leur avion pour Noël, quand les choses pourront
se compliquer. Parce que ça, j'assume. J'entends les protestations, les discussions ont commencé avec les ministres, mais il ne faut pas que nos compatriotes qui travaillent dans des services essentiels considèrent que leur mobilisation soit de nature à bloquer des familles ou des travailleurs. Et moi, je les appelle au calme et à la responsabilité. On les entendra. Moi, je ne veux pas du tout. Je ne ferai pas une réforme qui nie ce que sont les droits acquis d'individus. Mais je leur dis en conscience, vous ne pouvez pas sincèrement et raisonnablement me dire on va embaucher un cheminot demain au même régime que vous, on va embaucher un électricien au même régime que vous, on va embaucher avec les mêmes règles. Ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable. Je veux aller au bout de cette réforme. Je pense qu'elle est nécessaire pour le pays. Donc je la défendrai, peut-être que ça me rendra impopulaire, peut-être que des gens diront c'est insupportable, tout ça pour ça. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages. Je ferai tout pour qu'on soit en soutien de nos compatriotes qui seraient bloqués. Mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance.
William Galibert, la réforme des retraites, c'est loin, loin d'être le seul dossier inflammable du moment.
Non, hein. C'est vrai, les grognes s'accumulent, les colères s'additionnent, celles des profs, des pompiers, des agriculteurs, celles du monde hospitalier et des urgences. La crise dure, malgré un grand plan santé présenté il y a un an et malgré les dernières mesures annoncées par Agnès Buzyn, la ministre. Il faut faire face à l'immédiat. Alors dans cet avion qui le ramène à Paris, au micro de RTL, Emmanuel Macron promet un nouveau plan d'action, plus de moyens à court terme pour l'hôpital.
Le problème qu'on a, je vais être très sincère avec vous, on fait une stratégie qui est très intelligente, qui va mettre 5 à 10 ans à se déployer. On manque de médecins par exemple, j'ai rouvert le numerus clausus. Il faut 10 ans pour former un médecin. Et nous payons aujourd'hui les non-réformes ou les mauvais choix qui ont été faits il y a 10, 15 ou 20 ans. Et on se retrouve aujourd'hui avec des choses qui n'étaient pas prévisibles dans une situation où on n'a pas assez de médecins et donc de la désertification dans nos campagnes. Et des gens qui me disent « je ne trouve plus de médecin pour me soigner » où il y a 6 mois d'attente ou 8 mois d'attente et ils ont raison. Et de l'autre côté, des urgences qui sont saturées. Et cette crise, elle arrive aujourd'hui. Elle saute aujourd'hui. Or, je ne peux pas former des médecins en 6 mois. Et donc, ce qu'on est en train de finaliser, c'est aussi maintenant, sans mauvais jeu de mots, une réponse d'urgence, où, soyons clairs, il va falloir qu'on remette des moyens. Parce qu'il faut qu'on réponde à la souffrance aussi des personnels de santé. Moi, je pense, vous savez, évidemment que moi, une des choses qui me bouleverse le plus, c'est quand je vois nos infirmières et nos infirmiers, nos aides-soignants, nos médecins, qui sont en souffrance au travail alors qu'ils sont d'un dévouement incroyable, qui ne comptent pas leurs heures, leur énergie et qui sont mis dans des situations impossibles. Donc pour moi ce cas, il est emblématique de la difficulté qu'on vit. On a fait un très gros travail pour penser l'hôpital de demain et la santé de demain et patatras, on arrive au bout d'un modèle qui tirait sur la corde depuis 10-15 ans et ça claque maintenant. Faut pas être injuste avec ceux qui ont construit le modèle futur qu'on a présenté. Il faut continuer ce travail mais il faut l'accélérer. Et en même temps avoir, si je puis dire, une réponse d'urgence qui permette de traiter les souffrances immédiates. Et je crois que c'est ça un peu ce que notre pays vit, que j'avais peut-être sous-estimé. On ne peut pas dire à une infirmière qui n'est pas assez payée, qui est en souffrance au travail, qui n'a pas assez de moyens, vous savez, on va construire quelque chose de formidable, vous verrez, dans 10 ans, ce sera super. Non, il faut qu'on lui explique ça et où on va. Et je crois vraiment que ce sera beaucoup mieux dans 5 ans même. Dans 5 ans. Mais il faut aussi qu'aujourd'hui, on puisse lui permettre de mieux travailler.
Un nouveau plan d'urgence pour les urgences avec des annonces et des moyens supplémentaires. Quand ? Le plus vite possible, mais tout n'est pas encore ficelé, nous dit-on pour l'instant à l'Élysée.
Et puis le président de la République pouvait difficilement rester à l'écart du débat sur la laïcité et sur la place de l'islam qui ressurgit dans la société française.
Oui, mais il le fait en prenant des pincettes, on le sent bien. Ses amis comme ses adversaires politiques le pressent de s'exprimer, de prononcer un grand discours sur le sujet. Lui nous répète que l'urgence n'est pas au beau discours, mais à l'action. D'ailleurs, dans 1h30 à peine, il recevra à l'Élysée les représentants du CFCM, le Conseil français du culte musulman.
Moi, j'observe que j'ai parlé un bon nombre de fois de laïcité, comme candidat, comme président, Les gens savent très bien ce que je pense. Mais à chaque fois, on dit que quand il y a le pays s'embrase, il faut que le président parle de laïcité. Parce qu'on confond les sujets. On ne me demande pas de parler laïcité. On veut que je parle d'islam. Bon. Pourquoi je ne veux pas céder à la précipitation ou aux injonctions de parole dans ces moments-là? Parce que je serai moi-même complice d'une espèce de confusion collective. Notre pays, depuis plusieurs années, a à vivre avec le terrorisme. Notre sujet aujourd'hui, c'est d'identifier les personnes qui sont radicalisées. C'est ça le sujet. Le sujet de la préfecture de police, c'est ça. C'est, dans un endroit très sensible de la République, quelqu'un qui se radicalise. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, la priorité, c'est ce point. Et donc, c'est cette société de vigilance qui consiste, non pas à soupçonner tout le monde et n'importe quoi, mais à construire les réflexes de savoir comment et pourquoi quelqu'un se radicalise. Et cette bataille, on la poursuit, on la décline, la radicalisation, dans les territoires les plus sensibles. J'ai nommé une équipe il y a un peu plus d'un an et demi, dans une quinzaine de territoires considérés comme très dangereux, où il pouvait y avoir des personnes dans cette situation, on a mis beaucoup plus de moyens, on a dissous des associations, on a fermé des écoles, ce qu'on dit trop peu, quand il y avait des risques sur ce sujet, et donc on s'améliore chaque jour, mais on doit continuer. Il y a une deuxième lutte essentielle, que je ne confonds pas avec la première, qui est la lutte contre le communautarisme. Le communautarisme, ça n'est pas le terrorisme, beaucoup de gens là aussi confondent. Mais c'est le fait que dans certains quartiers de la République, dans certains endroits de notre République, il y a un séparatisme qui s'est installé. C'est-à-dire la volonté de ne plus vivre ensemble, de ne plus être dans la République, et au nom d'une religion, l'islam, en la dévoyant, de dire « je crois à un islam politique et nous allons vivre selon ses règles qui ne sont pas celles de la République ». Ce que j'ai demandé au gouvernement et que j'annoncerai dans les prochaines semaines, parce que c'est là ma priorité, c'est véritablement, en éducation, la santé, le travail, les différents services, le public, de mettre tout en place pour lutter contre ce communautarisme. Ce qui veut dire avoir des mesures d'interdiction, ce qui veut dire dissoudre parfois certaines associations encore davantage, ce qui veut dire interdire certaines pratiques qui se sont installées et qui ne sont pas conformes aux lois de la République. Et puis enfin, il y a la question de l'islam, d'une religion. Je m'apprête à voir les représentants du Conseil français du culte musulman. Je vais continuer ce travail, mais il doit être d'abord fait à bas bruit, parce qu'on a souvent échoué, mais qui est de voir comment nos concitoyens, dont la religion est l'islam, peuvent vivre tranquillement leur religion en respectant absolument toutes les lois de la République.
Enfin, pour finir, William, on regarde la date, hein, 28 octobre 2019. Dans deux semaines à peine, on passe le cap symbolique de la mi-mandat pour Emmanuel Macron.
2 ans et demi à l'Élysée, déjà 1 an aussi presque après le début de la crise des Gilets jaunes. Quelles leçons Emmanuel Macron a-t-il vraiment tiré de l'exercice du pouvoir? A-t-il des remords, des regrets? C'est la dernière question que je lui ai posée.
J'ai mes cicatrices et je les frotte de manière régulière pour ne pas les oublier. Et donc, je crois que pour moi, le fruit de ces 2 années et demie... Donc président, c'est voilà, c'est à la fois une expérience qui s'est installée avec un moment de spasme très fort qu'a vécu le pays, qui n'est pas innocent, qui m'a profondément marqué, comme il a marqué chacun. J'ai pas de regrets ou de remords, c'est pas mon tempérament, mais je suis convaincu après presque ces 2 années et demie que le temps passe formidablement vite, et donc on n'a pas le droit de le perdre.
Merci beaucoup William Galibert pour cette interview exclusive d'Emmanuel Macron accordée pour RTL à votre.